les chemins de traverse, escapade à Belle-Île en mer, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans cette série des chemins de traverse, je vous emmène pour une escapade sur l'aînée des îles du Ponant. Bonjour et bienvenue pour une visite insolite de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île en mer. Dans notre escapade à Belle-Île en mer, nous nous trouvons sur la commune de Locmaria, au Grand Cosquette, au Jardin de la Boulée. Suite et fin de la rencontre avec Véronique de la Boulée et son jardin, dans un vallon près de la mer, un jardin extraordinaire.
Oui, donc quand on fait une balade dans ce jardin, il y a le visuel, il y a l'odeur, donc on travaille
parfums,
les yeux,
oui, les parfums, donc c'est vraiment...
L'huile...
C'est une expérience de tous les sens. Et, c'était intéressant parce que les visiteurs... D'abord, ils acceptent de faire l'effort de prendre rendez-vous. Et je m'aperçois qu'en fait, ils arrivent avec une idée de jardin dans la tête qui provient soit du jardin d'une grand-mère, soit de leurs parents, soit d'un jardin visité, soit de leur propre jardin d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs de jardin. Et au fur et à mesure de la visite, je remarque qu'ils sont très étonnés et que peu à peu... Ils sont très surpris de découvrir que c'est un jardin, finalement, parce que c'est extrêmement sauvage.
C'est peut-être le côté sauvage qui les étonne.
Oui, et puis se rendre compte que ce n'est pas une collection, que ce n'est pas un arboretum, ouais. Que ce n'est pas un jardin de curé, évidemment, que ce n'est pas un jardin anglais, et que c'est une promenade dans un paysage un peu sculpté ou un peu aménagé.
Oui.
Ouais. Mais je ne sais même pas si on peut encore dire que c'est un jardin.
C'est peut-être pas un bon mot, jardin, en fin de compte.
Mais en fait, il existe un jardin pour chaque personne qui veut créer un jardin, finalement.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un ovni, un objet végétal
non identifié,
non identifié. Mais à la fin de la visite, c'est intéressant parce qu'ils disent « Oh, mais c'est très inattendu, et puis c'est très grand, et puis c'est très poétique, c'est paisible. » Donc des réactions très, très, très émouvantes parce qu'ils sont sensibles vraiment à l'esprit du lieu et ils découvrent que finalement, un jardin, ça peut être ce qu'ils en font. Et ils repartent plein de courage pour leur propre jardin. Et en fait, ça ne les dérange pas du tout que sur le bord du chemin, ils aient vu des orties de 1,20 m de haut et des ronces parfois qui poussent dans la nuit et que je coupe au moment de la visite. Je me promène toujours avec un sécateur. Voilà.
Comme ça, je dirais c'est la nature avec un chef d'orchestre quoi, qui essaye de diriger tout
oui,
ça.
Oui, c'est une...
Enfin, de mettre un peu d'ordre.
C'est une complicité à partir d'une structure quand même assez définie au départ, que mon mari a pu faire avant sa mort. Il était de formation géologue et donc il a pu vraiment dessiner les grandes lignes du jardin, à partir desquelles, moi, je continue... En brodant, en créant de nouveaux chemins, en plantant, en mettant en valeur une partie ou une autre.
Ça vit toujours.
Mais c'est un ajustement permanent, en fait. Le jardin... Alors, les visiteurs me demandent, mais quelle est la meilleure saison pour visiter votre jardin? Et alors, je leur dis, mais vous savez, toutes les saisons sont très intéressantes qu'elles sont très différentes. Donc, venez tous les 15 jours. Donc, il faut venir tous les 15 jours, quoi. Ça évolue tout le temps et c'est ça qui est très passionnant. Ouais. Et c'est un grand, grand privilège pour moi de pouvoir accompagner ce lieu, je dirais,
au quotidien.
Tous les jours en fait. Et puis vous avez la proximité de la mer, extraordinaire, qui aussi change de couleur, d'aspect tous les jours. Évidemment, il y a les tempêtes. Nous n'aurons pas le temps d'aller voir le pré où nous avons découvert un lavoir. Les Bélillois disent un douette. Pour aller la voir. C'était amusant parce que une personne du village qui a plus de 80 ans nous a dit qu'elle venait avec sa mère laver le linge quand elle était petite fille et que c'était le lavoir de sa famille, de deux familles. C'était pas le lavoir du village. On appelle ça un douette. Nous avons fait une découverte extraordinaire quand nous avons défriché un bout de lande sur le plateau. C'est que nous avons vu un muret de pierre. Beaucoup de murets étaient écroulés dans le fond du vallon et dans le coteau. Et là, apparemment, il était encore debout. Et alors nous avons commencé à dégager, et puis peu à peu, un mètre de plus, un mètre de plus, un mètre de plus, et finalement, c'était tout un muret de pierre qui était debout, complètement caché par la lande, et nous nous sommes aperçus qu'il dessinait un triangle. Nous nous sommes amusés à penser qu'il y avait une raison mystérieuse, c'est quand même bizarre, un triangle, un pré en forme de triangle. On voit bien les deux côtés, et la base qui est un petit peu dissimulée par l'ajon et le genêt à balai. Et parfois, ils mettaient les pierres en arêtes de poisson. Donc c'est très joli, ça donne un dessin dans le schiste. Et à la base de certains murets aussi, il y a une sorte de V renversé qui permet un passage. Et un chasseur à Belle-Île m'a dit que c'était pour laisser passer les petits chiens qui ne pouvaient pas sauter le mur parce que quand même ils ont 80 cm de haut. Et peut-être pour piéger des lapins, je ne sais pas. Alors l'idée nous est venue que dans ce lieu triangulaire, une sculpture de forme complémentaire serait l'endroit idéal. Et donc nous avons fait faire un œuf en pierre avec la pierre de Belle-Île, la pierre de schiste que nous avons trouvée dans le coteau juste derrière. Et un maçon d'un village voisin qui faisait des beaux murets de pierre. Et je l'ai invité à venir et je lui ai montré le tas de pierres, le gabarit que nous avions préparé en forme d'œuf. Et je lui ai demandé s'il ferait un œuf. Et Thierry Clément m'a répondu, j'ai jamais fait ça, mais je veux bien essayer. Et c'était extraordinaire parce que c'était en juin 1999, il faisait très beau. Et je l'ai regardé travailler et il prenait une pierre dans ses mains. Il la tournait, les grosses il les mettait au milieu, avec beaucoup de ciment, et les autres, il trouvait toujours le sens de la pierre pour la mettre en continuation de la forme, avec du ciment également, mais que l'on voit peu, et il a monté l'œuf en 5 jours.
Et, sacré travail.
C'était un beau travail, et maintenant donc, l'œuf a été fait en 1999 et il n'a pas bougé. Simplement, il y a certaines pierres qui sont couvertes de lichen jaune, donc c'est très bien parce que c'est un œuf, il est plein. Et de temps en temps, je vois un couple de faucons cresserelles ou de goélands qui sont posés sur l'œuf et qui regardent leur territoire. Là, nous descendons dans le vallon de Pouldon, le long vallon de Pouldon. Et vous voyez, le chemin est longé par cette haie taillée d'ajoncs et de genêts à balai. Nous arrivons dans le vallon de Pouldon, qui est longé par le chemin qui mène à la mer. Alors maintenant, nous marchons sur une herbe bien tendre et bien verte. Il n'y a plus d'ajoncs. Et c'est une autre ambiance.
Voilà, puis il fait frais, là.
Et là, donc, c'est le premier bassin que nous avons creusé. Avec le gué, il existait un gué dans le passé, nous l'avons stabilisé avec des pierres. Et puis nous avons trouvé ce muret de pierre que nous avons restauré. Et autour de ce bassin, ce sont des cyanotes rampants, des cerisiers du Japon qui donnent une couronne bleue et blanche en tout début de printemps. Et puis ensuite leur succède les cognassiers du Japon, des myosotis, des campanules, des rosiers lianes que nous avons plantés. Qui montent dans les saules, et puis en ce moment, l'été, c'est les agapanthes et principalement les hortensias. Et puis ce jardin retrouve de la couleur avec les feuilles rouges des cerisiers du Japon. Mmh. Évidemment, là, le ruisseau ne coule plus. Quand l'eau coule, elle cascade sur cet escalier d'eau, et vous avez la ligne des saules, les vieux saules marceaux que nous avons conservés, qui délimitent le jardin le long du chemin qui mène à la mer. Et des bambous referment cet espace, ce jardin, par rapport au chemin du facteur, donc créant une atmosphère différente.
Oh, on a l'impression qu'on a changé de lieu, là. Hein.
Oui, tout à fait.
Déjà, c'est beaucoup plus vert, même. C'est joli, ces troncs qui partent, là.
Voilà la poule d'eau. Oh. Et son nid, vous voyez, était là, sous les branches, juste derrière, là. Nous longeons les saules osiers le long du ruisseau. Et voilà l'étang du bas, le troisième étang de ce vallon où a poussé cet aune glutineux tout seul, que vous voyez se dresser là. Et voici dans le bas du petit vallon, vous voyez tous les hortensias.
Ils sont magnifiques ces hortensias.
Nous allons remonter par ce chemin
que j'ai ouvert à Mikoto. Il est à quelques mètres au-dessus du chemin précédent, mais de là, il y a une perspective complètement différente sur le vallon.
Là, on monte, la vue commence à se dégager. Et nous voilà au point de départ, devant les fameuses sculptures.
Cette sculpture rappelle les fanions que les pêcheurs mettent en mer pour indiquer l'emplacement de leur casier.
On est dehors ?
Un grand merci à Véronique de la Boulée pour cette rencontre, son accueil, sa disponibilité et sa gentillesse. Et surtout, si vous venez sur Belle-Île-en-Mer, allez rendre visite à Véronique. Elle vous emmènera dans son univers, un jardin, dans un vallon, près de la mer.
Faire un jardin, c'est travailler l'éphémère.
À noter qu'au nord de Belle-Île, entre Sauzon et la Pointe des Poulains, se trouve également le jardin Éden du voyageur. Jardin où vous pourrez découvrir des plantes aromatiques et officinales, ainsi que des légumes et des fleurs du monde entier. Allez, nous, en cette fin d'après-midi, nous prenons le bus à l'arrêt du Grand Cosquette pour rejoindre le palais. C'est à la gare routière que nous descendons sur la hauteur de la ville et de là, nous rejoignons la citadelle.
Les chemins de traverse, escapade à Belle-Île-en-Mer.
Belle-Île-en-Mer, de par sa position, ses richesses naturelles et ses abondantes sources d'eau douce, fut au fil de l'histoire convoitée, envahie et pillée. C'est sur les ponts rocheux dominant le port du Palais, le meilleur mouillage, que naturellement se sont concentrés au cours de l'histoire les efforts pour la défense de l'île, où la présence humaine est attestée depuis l'âge de bronze. Néanmoins, de nombreux points sur l'île ont été également fortifiés, dont l'accès aux plages. Sur les ponts rocheux du Palais, une première construction fut édifiée dès le Moyen-Âge par des moines bénédictins de Redon et de Quimperlé. C'est en 1549 qu'un premier fortin est construit. Sous le marquisat des Gondy et de Nicolas Fouquet, le fortin est transformé en véritable forteresse dont elle garde encore de nos jours d'impressionnants fossés.
La citadelle du Palais. Vauban, commissaire général des fortifications, fit 3 séjours à Belle-Île en 1683, 1685 et 1689, afin d'en étudier les défenses.
À partir de 1683, Vauban renforce les défenses. Vers la fin du XVIIIe siècle, elle sert de caserne et de prison. Durant la guerre 14-18, elle abrite des prisonniers allemands. Désaffectée militairement depuis 1933, la citadelle est une propriété privée depuis 1960, et est classée monument historique depuis 2006. Elle a fait l'objet d'une superbe restauration grâce aux propriétaires et aux pouvoirs publics. Alors lors de notre séjour, par choix, nous n'avons pas visité la citadelle Vauban, mais malgré tout, nous vous invitons à le faire lors de votre venue sur Belle-Île. Citadelle et musée qu'il est possible de visiter soit en visite libre, soit en visite guidée. En dehors des visites culturelles, Belle-Île est un lieu idéal pour de nombreuses activités. Ainsi, vous pouvez aller à marée basse, à la pêche à pied sur l'estran, ou encore chevaucher sur les chemins intérieurs ou en surplomb des paysages côtiers. Les itinéraires équestres étant souvent inaccessibles aux véhicules, offrent au regard d'autres facettes de l'île. Si vous êtes plutôt adepte des activités aquatiques, des randonnées en kayak de mer vous sont proposées, un bon moyen pour découvrir les criques et l'île depuis l'océan. Si les profondeurs maritimes vous attirent, partez à la découverte des fonds sous-marins de Belle-Île avec des professionnels. Ils vous mèneront vers les sites d'épaves et d'observation de la faune et de la flore, dignes des mers chaudes. Vous pouvez également pratiquer le surf à la plage de Donan ou encore la voile. Et si vous êtes plutôt adepte de la plage et de ses joies, de belles plages de sable fin au bout des rias et dans les criques vous attendent. Je vous laisse le temps de pratiquer l'activité de votre choix. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette même antenne pour la suite de cette escapade à Belle-Île-en-Mer. Au revoir et à très bientôt.